On savait que McCarthy ne faisait pas l'unanimité au sein du Parti républicain, mais est-ce que vous vous attendiez vraiment à ce qu'il y ait autant d'opposition et autant de rounds de vote et qu'on en arrive donc à cette impasse?
Oui, on s'y attendait quelque part parce qu'il y a cette espèce de cassure, de brisure qui existe au sein du Parti républicain où une partie du Parti républicain est extrêmement loyale à l'ancien président Trump et une autre faction qui est un peu plus centriste. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait cette fracture au sein du Parti républicain.
Mais il avait, Donald Trump lui-même a demandé à ce qu'on vote pour McCarthy. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors il y a ceux qui sont encore plus à la droite de Trump et ceux-ci font la différence. Ils ne veulent pas qu'ils perçoivent McCarthy comme étant un centriste.
D'accord. Alors René Lecq, le poste de speaker, comme on l'appelle ici, c'est un poste qui n'est jamais donné d'avance, n'est-ce pas, quel que soit le parti. Il est quand même rare qu'on en arrive là. Pourquoi McCarthy a eu du mal avec ses 20 élus? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est une différence d'approche? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, écoutez, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu ici. Effectivement, en général, le leader du parti qui a la majorité, en général, n'a pas de difficulté particulière à devenir le président du Parlement, le Speaker of the House, comme on dit ici. Mais dans le cas d'espèce, bien qu'il y a quand même des difficultés, par exemple, même Nancy Pelosi, la dernière élection, tous les démocrates n'ont pas voté pour elle. Mais en général, ils n'ont pas voté pour elle parce qu'ils savaient que quelque part, elle allait passer. Donc il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas voté pour elle, mais ça ne remettait pas en cause son élection. Mais là, effectivement, on est dans une situation où jusqu'à 5, il suffit qu'il y ait 5 républicains qui disent non, et tout simplement le système est bloqué, et le leader de la minorité républicaine ne peut pas être élu. Alors en ce qui concerne McCarthy en particulier, il faut dire, Abdourahman, que il y a simplement un an et demi, pendant les primaires des élections primaires républicaines, il a mobilisé entre à peu près 350 millions de dollars pour faire élire au niveau des primaires des candidats relativement modérés. Donc les rebelles, ce qu'on appelle les rebelles, les 20 rebelles en question, ils font partie des gens, des radicaux, et donc ils ont considéré que quelque part McCarthy s'opposait à eux, était en contradiction avec eux et ne les défendait pas. Donc quelque part c'est une sorte de revanche également qui est en jeu.
D'accord. Alors Daniel Menguera, pour le Sénégalais ou le Gabonais qui suit tout ce qui se passe au Congrès ici, est-ce qu'il doit se dire qu'on assiste peut-être à l'expression d'une vitalité démocratique, ou peut-il y avoir des limites au modèle démocratique vraiment? De quoi s'agit-il pour
nous? Oui, en fait, ce que nous avons là, en fait, c'est, je crois que les francophones qui nous écoutent le savent très bien, c'est une situation de cohabitation qui est un peu prévue par la Constitution, un peu comme en France, puisque nous savons que dans les années 90, par exemple, Jacques Chirac s'était retrouvé en situation de cohabitation où donc le Parlement était aux mains de l'opposition. Et donc, dans ce cas-là, le président perd un peu de son pouvoir. Et ici, nous sommes aux États-Unis dans ce qu'ils appellent « divided government ». Donc, d'un côté, nous avons en fait la Chambre des représentants qui est un peu comme l'Assemblée nationale hein, dans les pays francophones, se retrouve aux mains des républicains. Ça veut donc dire que l'agenda de Biden se retrouve un peu compromis par cette situation de partage de pouvoir. Et malheureusement, dans ces contextes-là, nous savons que des majorités très faibles, hein, de part et d'autre, peuvent compromettre l'agenda de tout un gouvernement et même arriver à le bloquer. Hier, j'ai été fasciné par les statistiques du New York Times, hein, qui étaient assez édifiantes, parce que des 20 républicains dont nous parlons là, ils bloquent un peu l'élection de Kevin McCarthy comme speaker, 19 sont associés à ce qu'on appelle le Freedom Caucus, qui est une sorte de groupe parlementaire qui s'était radicalisé, en fait, qui s'était créé dans les je crois en 2015, hein, sous la présidence de Barack Obama, avec l'objectif spécifique de radicaliser les valeurs conservatrices et de bloquer l'agenda démocrate. Et si vous regardez à l'intérieur, le New York Times nous dit quoi ? 12 de ces membres, de ces 20 qui bloquent un peu ma carte, ont remis en cause le résultat des élections présidentielles de 2020. 14 de ce groupe qui ont été réélus lors des élections avaient voté également pour renverser le vote du collège électoral. Vous voyez, donc nous sommes ici en présence d'une situation où 20 républicains parmi les plus extrêmes, on va dire, vont rendre quasiment ingouvernables les États-Unis dans les 2 années qui viennent.
Et Marie-Hélène, pour vous, c'est la démocratie en action ici ou un chaos qui prouve que la démocratie a ses limites?
Alors oui et non. Alors quelque part, on a l'impression d'une sorte de chaos qui se déroule en fait devant le public américain. Mais d'autre part, cela montre aussi que la démocratie en fait fonctionne, mais qu'elle n'est pas. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de laborieux. Et donc, on le voit, si vous voulez, la démocratie en marche, mais une démocratie qui vraiment montre que c'est un processus, qu'il s'agit là d'un processus qui peut être très lent.
Mmh. Et René Lec, les partis politiques vont-ils avoir de plus en plus de mal à gérer leur division interne, hein, aussi bien chez les démocrates que les républicains, chez les démocrates, il y a les progressistes un peu contre les ceux qui sont un peu plus au milieu, et ce qu'on est en train de voir chez les républicains.
Oui, écoutez, Abdourahmane, et ça c'est peut-être la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au fond, peu importe qui sera le Speaker of the House, celui qui sera élu, que ce soit McCarthy ou un autre, que ce soit, je ne sais pas, Fritz Patrick ou quelqu'un d'autre, il aura énormément de mal à tenir ses troupes, il aura énormément de mal à gouverner. Et au fond, il n'y a rien de nouveau, hein, depuis 2012, l'arrivée de Obama, c'était en 2008, 2010, 2012, avec le Tea Party, la radicalisation d'une bonne frange des républicains, on assiste à une situation où les républicains ne sont pratiquement plus un parti de gouvernement. Ils n'arrivent plus à gouverner, ils ne proposent plus de projets. Regardez pour Obamacare, ils se sont opposés quand ils étaient majoritaires. Ils ont proposé des tas de projets de loi, plusieurs dizaines de projets de loi pour annuler Obamacare, mais sans rien proposer en contrepartie. Ce n'est plus un parti de gouvernement, et c'est la grosse difficulté. Donc, quel que soit celui qui deviendra le président du Parlement, il aura énormément de difficultés à tenir ses troupes et à contribuer concrètement à la gestion, à l'organisation, au développement de ce pays.
D'accord. Et Daniel, est-ce que cela renforce un peu le débat sur la nécessité d'avoir d'autres partis politiques au lieu de ce système des deux partis?
Oui, on peut le dire, hein, parce que le système bipolaire, hein, tel qu'on le voit, a ses limites. Et ça a tendance à rendre les choses un peu difficiles à gérer quand les majorités sont courtes, hein, comme on le voit en ce moment. Et vous allez voir que pour l'agenda de Biden, il est quasiment compromis, et du moment que les lois qui sont votées par donc la Chambre basse, hein, la Chambre des représentants, ces lois-là auront du mal à passer si elles sont des lois proposées par les groupes radicaux. Et l'agenda de Biden lui-même sera généralement bloqué par ces approches radicales. Et donc nous voyons effectivement que, quelque part, on pourrait dire que ce système bipolaire a tendance à... on va presque dire fossiliser certains comportements, et comme vous le voyez, quelqu'un l'a dit, le parti républicain s'est radicalisé depuis les années 90, d'abord avec je crois la présidence de Newt Gingrich, hein, à l'époque, ensuite John Boehner, ensuite Paul Ryan, mais en réalité on a vu une évolution radicale qui a fait qu'aujourd'hui on a presque l'impression que le serpent républicain se mord la queue, et ça devient donc quelque chose qui fera que à terme il y ait peut-être besoin quelque part de créer un troisième pôle ou un quatrième pôle ou un pôle indépendant capable de changer la donne. Mais je crois que ce sera difficile parce que vous savez, ces systèmes existent depuis tellement longtemps que l'Américain a intégré dans son subconscient que bon, il n'y a que le Parti démocrate et le Parti républicain. Une troisième voie sera généralement difficile à créer dans le système américain.
D'accord. Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook, Marie-Hélène, peut-être que vous vouliez réagir à cet aspect. Marie-Hélène ?
de l'autre, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si la solution du troisième parti ou de quatrième parti, de plusieurs partis, pourrait changer la donne, puisque c'est un système, comme on l'a dit auparavant, qui est extrêmement ancré dans la politique, dans l'histoire américaine.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y a Omar Salin, est à Abidjan. Il nous dit, cette configuration du Congrès américain avec un Sénat contrôlé par le parti au pouvoir et une chambre dirigée par l'opposition symbolise la vitalité de la démocratie au pays de l'oncle Sam. Alphonse Mbaki à Kinshasa, il écrit, le Congrès américain est en train de creuser un fossé entre le peuple américain et un congrès de lutte entre le parti républicain et le parti démocrate. Et puis Théodore, archiduc Théodore N'Djamena nous dit qu'avec ce congrès, Joe Biden doit faire des efforts considérables pour convaincre avec des projets réalistes et justes afin d'éviter le blocage de son agenda. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités ici à Washington, Marilyn Sefok, le professeur de langue à Howard University. Toujours à Washington, René Lec, vous êtes consultant et analyste politique. Et dans le New Jersey, Daniel Menguera, analyste politique, professeur à Montclair State University. Tous observateurs avertis de la scène politique américaine. Alors, Marilyn, est-ce que ce blocage présage, comme le pensent certains, d'une législature difficile, sachant qu'il y a quand même plusieurs sujets sur la table, hein, le relèvement du plafond de la dette, les lois électorales, tout cela, qu'est-ce qui va se passer selon vous?
Alors, ce sera une législature, comme vous l'avez dit, difficile, et cela donnera au président Biden, ne laissera au président Biden peut-être parfois qu'un choix, c'est-à-dire utiliser les décrets pour pouvoir faire avancer son agenda, ce qui n'est jamais souhaitable pour un président américain, mais qui devra être une solution dans certains cas pour le président Biden.
Et peut-être on s'attend aussi à des critiques déjà sur cette question des décrets, non?
Oui, absolument, parce que légiférer par décret, gouverner par décret, ce n'est jamais une bonne chose, parce que cela montre qu'on n'est pas arrivé à un certain consensus et qu'on doit s'appuyer sur des décrets présidentiels pour pouvoir faire avancer l'agenda du président. Donc ce n'est pas populaire, mais parfois c'est une ressource qui est dans l'arsenal, si vous voulez, du président américain.
Alors, René, ce qui se passe au Congrès, est-ce que les démocrates doivent y voir un avantage ou s'agit-il d'un épisode qui ne va pas forcément leur profiter sur le long terme puisqu'il s'agit d'une bataille interne finalement?
Oui, écoutez, politiquement, les démocrates, comme certains disent, ils regardent leur télévision, ils ont des pop-corn à la main et ils se délectent quelque part, parce que bon, c'est vrai que cela expose quelque part le parti républicain, les contradictions internes que tout le monde connaissait, mais là on les voit, là elles sont, les contradictions, elles sont là devant, dans le salon des Américains, sur leur télévision, les républicains, leur incapacité à gouverner, leur incapacité à s'entendre est manifeste. Donc de ce point de vue, politiquement, les démocrates y trouvent un intérêt. Maintenant, par rapport à la gestion des affaires du pays, c'est vrai que cette situation va rendre la gestion du pays plus difficile, mais il ne faut pas oublier que les démocrates contrôlant le Sénat, toutes les nominations vont finalement pouvoir se faire avec une majorité démocrate, et notamment les nominations judiciaires qui sont certainement les plus importantes.
Parce que finalement, quel que soit ce qui se passe, en fait, on va juger les démocrates dans 2 ans, puisque c'est eux qui occupent la Maison Blanche quand même.
Oui, mais bon, vous savez, d'un point de vue statistique, les démocrates, je crois qu'à l'exception de Carter, tous les démocrates qui se sont représentés pour un deuxième mandat, qui avaient un congrès qui leur était opposé, ont gagné les élections. Donc si les statistiques se confirment, Joe Biden est en position plutôt, je dirais pas en pole position, mais en tout cas, il n'est pas en situation défavorable.
Alors, Daniel Mengele, quelles leçons faut-il en tirer de cette bataille interne au sein des Républicains? Est-ce que ça fait forcément l'affaire des démocrates?
Oui, absolument. Comme l'a dit un de nos amis ici, hein, je pense que nous avons déjà vu qu'il y a cette majorité en dents de scie, hein, qu'on constate souvent au Congrès, ont souvent eu pour comme conséquence, hein, directe, souvent... la reprise du Congrès par les démocrates. Pourquoi? Parce que les éléments de blocage ont souvent caractérisé ces congrès comme des congrès, comme ils le disent ici, hein, « do nothing congress », finalement, qui sont des congrès à ne rien faire. Et du coup, ces blocages qui sont perçus par la population comme des situations qui ne font pas avancer le pays ont tendance généralement à profiter aux démocrates. Donc je crois que Biden sera effectivement en bonne position pour, au minimum, reprendre cette chambre basse donc à la prochaine élection. Maintenant, il faut ajouter à certains éléments, quelqu'un l'a dit, quels sont par exemple les éléments sur lesquels les démocrates et les républicains peuvent s'accorder. Nous savons que de manière générale, le but des républicains, c'est de bloquer l'agenda de Biden pour empêcher la reprise du Congrès et peut-être éventuellement aussi gagner la présidence. Mais nous savons aussi que Biden a la situation en Ukraine, sur laquelle une bonne partie des républicains peuvent éventuellement travailler avec lui, même si pour certains radicaux, ils se disent que bon, ils veulent plus donner à Biden un chèque en blanc et qu'ils vont effectivement essayer de mieux contrôler l'action de soutien de l'Ukraine par les États-Unis. Mais effectivement, le Sénat est quand même encore aux mains des démocrates et nous savons que oui, la nomination des juges et des magistrats sera possible, mais le vote des lois va demander en fait des compromis qui ne vont pas nécessairement plaire aux extrêmes des deux bords.
Mais justement, parlant de compromis, on a vu Joe Biden mercredi aux côtés de Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat. Ça présage un peu de ce qui va venir s'il veut faire passer quelque chose au niveau du Congrès. Daniel, Foss, d'abord.
Oui, je pense que bon, quelque part, on a presque l'impression aujourd'hui que des gens comme Connell et McCarthy deviennent un peu les modérés, hein, de ces partis, alors que nous savons que généralement, eux-mêmes ont accompagné cette radicalisation. Et je crois que bon, quelque part, on peut dire qu'ils étaient prisonniers de leur propre système. Mais le fait de l'avoir accompagné si souvent a fait qu'aujourd'hui, ils ont perdu, on va dire, le contrôle de leur parti. Maintenant, il est clair qu'au niveau du Sénat, quel choix est-ce que McConnell va avoir? Ben, il va falloir et se décider à savoir si, quelque part, il veut montrer que les républicains restent encore capables, un parti de gouvernance. S'ils ne peuvent pas le faire, je crois qu'ils vont payer le prix aux prochaines élections. Mais je crois qu'il y aura quelques espoirs de collaboration entre McConnell et Schumer, qui sont un peu les adultes, hein, dans la salle, et qui vont peut-être permettre à quelque chose d'être fait au niveau du Sénat. Mais au niveau de la Chambre basse, où la majorité est extrêmement courte, où McCarthy n'aura pas au cas où il finissait par triompher, n'aura pas une majorité solide pour soutenir son agenda, qui, quelque part, sera perçu généralement comme trop modéré. Je crois que c'est plus au niveau de la Chambre des représentants qu'on aura des blocages.
Et Marilyn, c'est vrai que 2 ans, c'est une éternité en politique, mais quel impact tout cela pour les élections de 2024?
Alors, comme vous dites, c'est une éternité, donc on ne peut pas vraiment prévoir ce qui peut se passer en 2024, mais en tout cas, comme on l'a dit auparavant, cela augure de façon quand même assez favorable, hein, pour les démocrates, parce qu'on sent bien la fracture qui existe au niveau des républicains, et cela ne peut que bénéficier le parti démocrate. Et entre-temps, on verra si le président Biden peut non seulement faire avancer son agenda, mais même aller au-delà, comme il l'a fait auparavant. Il est allé même au-delà des espérances des Américains durant les 100 premiers jours de son mandat. Donc on peut prévoir déjà une situation qui serait plutôt favorable aux démocrates.
René Lec, c'est votre avis?
Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je suis d'accord avec Marilyn. Quelque part, les statistiques, en tout cas, vont dans ce sens-là. Et puis, la question essentielle qui se pose, elle est quelque part politique. En fait, votre question elle-même est politique. Et c'est vrai que d'un point de vue politique, le spectacle auquel s'adonnent aujourd'hui les républicains ne peut pas leur être favorable, notamment chez les indépendants. C'est sûr que bon, les gens qui votent républicains à tous les coups, bon, ça ne va peut-être pas influencer leur vote, mais pour les indépendants, ils vont quand même se rendre compte qu'il y a un véritable problème de gouvernance au niveau du parti républicain qui est absent sur ce terrain-là depuis déjà plusieurs années, et la situation semble empirer.
Et Daniel, 2024, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ce n'est pas encore très clair chez les démocrates non plus, pour parler un peu de candidature.
Non, c'est pas encore clair. Et puis c'est vrai que quand vous regardez les sondages, hein, ceux de Biden, bon, ils montent, hein, ces derniers temps un peu plus, mais je crois qu'ils ont quand même été pendant un bon moment très bas. Ça augurait peut-être d'une situation difficile, mais je crois que avec la fin de la pandémie, avec l'économie qui rebondit, hein, quand même, il faut le dire, la situation des démocrates devient favorable. La question qui va se poser, hein, pour les Américains et surtout la jeunesse, c'est est-ce que on a vraiment besoin de continuer avec Biden, il y a le problème de son âge, et ainsi de suite. Et tout cela, ce sont des débats qui vont être posés. Mais Biden est généralement, on va le dire, en bonne position, et on aura du mal à voir quelqu'un s'opposant à lui. Donc du côté des démocrates, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui puisse, à mon avis, empêcher une réélection de Biden, sauf si quelque part une catastrophe politique inattendue se passait. La question sera aussi de savoir qui sera vraiment en face de Biden. Est-ce que ça sera Donald Trump ou quelqu'un d'autre, comme on parle du gouverneur de Floride, hein, DeSantis? Est-ce que il y aura quelqu'un pour faire le poids du côté des républicains? Là-bas, ils sont extrêmement divisés, et je n'ai pas l'impression, en tout cas pour le moment, qu'il y ait grande lisibilité même chez les républicains. Donc, pour le moment, je crois que les démocrates restent en très bonne position, sauf catastrophe.
Alors, il nous reste peut-être 30 secondes. En tout cas, Marilyn, vous avez une position très tranchée sur la question de l'âge de Joe Biden.
Oui, moi je pense que l'âge ne devrait pas être mis sur la table comme étant un critère pour pousser de côté le président Biden. Je pense que tant qu'il fait son travail, tant qu'il il le fait d'ailleurs de façon admirable, vu les
je promets qu'on fera un Washington Forum sur la question de l'âge des hommes politiques en général. Merci beaucoup, de cette émission. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur toutes nos plateformes digitales. Un grand merci à vous.